Territoire Afrique, les infos à Washington.
7h à Washington, 11h à Bamako et 13h à Bujumbura au Burundi. Le moment de suivre votre actualité au Mali. Le second tour de la présidentielle a été émaillé d'incidents majeurs. Des hommes armés non identifiés ont tué un agent électoral dans la région de Tombouctou. Des bureaux de vote ont été emportés. Certaines populations du centre du pays ont été empêchées de voter. Mais de façon générale, le scrutin s'est bien déroulé dans les grandes villes. Cependant, les bureaux de vote n'ont pas connu de forte affluence. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Un second tour très attendu, mais qui n'a pas répondu aux attentes des observateurs et qui pensaient que les Maliens allaient se bousculer devant les urnes. Tel n'a pas été le cas, surtout à Bamako. Certains pensent que c'est à cause de la pluie, mais en réalité, même après, les Bamakois ne sont pas sortis pour aller glisser leur bulletin dans l'urne. De façon générale, ce scrutin a été émaillé d'incidents au centre et au nord du pays. Dans la localité de Nampala, des assaillants ont emporté 12 bureaux de vote avant de créer la panique chez les populations. À Niafunke, c'est un jeune président bureau de vote qui a été assassiné par des hommes en armes qui ont fait irruption dans un bureau de vote. Après ce forfait, les mêmes hommes armés ont brûlé le matériel électoral. C'est après cet incident que l'armée malienne est revenue sur place pour récupérer le corps du jeune avant de commencer des opérations de ratissage dans la zone. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Merci Kassim pour ces précisions. Revenons plus en détail sur les incidents du cercle de Niafouké où les djihadistes sont assez actifs avec notre correspondant sur place, Sekou Abdulkader Maïga.
À Arkodia, le président du bureau de vote 2 a été froidement assassiné à bout portant par des hommes armés qui ont fait irruption dans le bureau aux environs de 14h30. Selon plusieurs témoins, des hommes armés non encore identifiés ont d'abord tiré devant le bureau de vote, chassant ainsi les électeurs avant de tirer sur Ibrahima Alassane Cissé, président du bureau de vote. Les autres agents électeurs ont aussitôt pris la fuite dans la brousse. Plus tard dans la journée, aux environs de 17h, les présidents des bureaux de vote de Niodougou, Guati et Banyaga de la commune de Sobundu, très paniqués, nous signalant que des individus armés leur ont tiré dessus. Ceux de Guati ont été dépouillés de leurs biens, argent, téléphone et même des habits. Il faut signaler que le cercle de Niafunke est très vaste et s'étend jusqu'à la frontière mauritanienne et fait 359 bureaux de vote pour 84 473 électeurs. Sécuriser toute cette zone cherchant le mode asymétrique d'opération des bandits est une tâche difficile. Depuis Niafunke, Sekou Abdulkader Maïga pour la VOA.
Au Burkina Faso, au moins 6 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste visant samedi les forces de sécurité dans l'est du pays. 4 gendarmes et un civil sont morts dans l'explosion d'une mine, selon un communiqué de l'armée qui précise qu'un cinquième gendarme a été tué dans des échanges de tirs qui ont suivi l'explosion. Ces gendarmes étaient chargés d'assurer la sécurité de la mine d'or de Bungu dans la région de Fada dans l'est. En Égypte, les autorités ont arrêté 6 suspects, membres d'une cellule terroriste responsable d'un attentat suicide déjoué samedi par les forces de sécurité contre une église au nord du Caire. Le ministère de l'Intérieur n'a pas précisé hier à quel groupe cette cellule était rattachée, mais on sait que le groupe État islamique a revendiqué la plupart des attentats contre les Coptes, attentats qui ont fait plus de 100 morts depuis 2016. Toujours en Égypte, un tribunal a condamné à la prison à la vie le guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badei, et d'autres responsables de la confrérie islamiste pour des manifestations violentes qui se sont déroulées en 2013. Le tribunal a aussi condamné à la perpétuité 4 hauts responsables des frères musulmans, notamment Essam al-Eryan, Mohamed al-Beltaghi et Safwat Eghazi en Égypte. La peine de mort à vie se traduit par 25 années de détention au maximum. 4 autres co-accusés ont par ailleurs été condamnés à des peines de prison allant de 5 à 10 ans.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, une poignée seulement de néo-nazis se sont rassemblés hier dimanche devant la Maison-Blanche sous surveillance policière renforcée face à des centaines de contre-manifestants un an après les incidents meurtriers de Charlottesville. Ils avaient reçu l'autorisation pour un cortège de 400 personnes, mais seule une vingtaine de suprémacistes blancs sont arrivés dans l'après-midi au Square Lafayette, après avoir marché depuis une station de métro du centre de Washington. Parmi eux figurait Jason Kessler, organisateur de l'événement, est déjà à l'origine du rassemblement l'an dernier à Charlottesville. Son organisation informelle Unite the Right avait un créneau de 17h30 à 19h30, mais ses manifestants ont quitté les lieux aux environs de 18h. Ces derniers avaient été accueillis par au moins 300 militants antiracistes qui leur ont crié « Honte à vous et partez de ma ville » pour empêcher tout contact entre manifestants et contre-manifestants. Un important dispositif policier avait été mis en place avec plusieurs artères interdites à la circulation. En Iran, 67 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines dans le cadre d'une campagne anticorruption approuvée par le guide suprême Ali Khomeini. Le point avec Idriss Fall.
Le but de l'opération est d'obtenir la reddition de la Turquie dans tous les domaines, de la finance à la politique, a dit Recep Tayyip Erdogan, ajoutant que son pays ne va pas rester les bras croisés. Les États-Unis et la Turquie sont partenaires au sein de l'OTAN et le Pentagone a une base à Incirlik, centre des opérations contre le groupe État islamique. Mais la livre turque s'est effondrée suite à la décision du président Donald Trump de doubler les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium turc. Washington réclame la libération immédiate du pasteur américain Andrew Brunson, jugé en Turquie pour terrorisme et espionnage. Il a été placé fin juillet en résidence surveillée après un an et demi de détention. De son côté, la Turquie demande l'extradition de Fethullah Gulen, prédicateur établi sur le sol américain et soupçonné par Ankara d'être l'architecte du putsch manqué de juillet 2016.
Bagassi Koura, ce n'était pas donc l'Iran. Bagassi nous parlait de la Turquie où la Banque centrale a annoncé qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité financière alors que la livre turque est en chute libre. Elle a notamment affirmé qu'elle fournirait toutes les liquidités nécessaires aux banques. La livre turque bat des records à la baisse ces derniers jours sur fond de tension avec Washington. Et le président Recep Tayyip Erdogan a estimé hier que cette chute de la livre turque résulte d'un complot politique contre son pays. Il a promis de chercher de nouveaux marchés et alliés alors que les relations avec les États-Unis sont au plus bas. En Iran, donc, 67 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines dans le cadre d'une campagne anticorruption approuvée par le guide suprême Ali Khomeini. Le point avec Idriss Fall.
Le vice-gouverneur de la Banque centrale iranienne a été arrêté ainsi que d'autres responsables accusés de corruption et de spéculation. Plus d'une centaine de fonctionnaires ont également été interdits de quitter le territoire. Samedi, l'ayatollah Ali Khamenei a donné son feu vert pour la mise en place d'une cour spéciale pour juger les personnes accusées de crimes économiques. Le porte-parole de l'autorité judiciaire, Gholam Hossein Mohseini Ejei, accuse les États-Unis de faire pression sur l'économie. Déjà en avril, face à une forte dépréciation de la monnaie iranienne, les autorités avaient fermé les bureaux de change. La mesure avait entraîné une vague de spéculation sur le marché noir. Maintenant, le gouvernement a assoupli les taux de change du rial qui a beaucoup perdu de sa valeur et le rétablissement des sanctions économiques américaines est venu exacerber toutes les difficultés économiques du pays.
Idriss Fall, les deux Corées ont décidé aujourd'hui de tenir en septembre un sommet à Pyongyang qui pourrait marquer une nouvelle étape importante dans le rapprochement historique entre les deux pays. La nouvelle a été annoncée dans un communiqué commun diffusé en marge de discussions entre les deux parties dans la zone démilitarisée. Aucune date précise n'a été donnée. Une visite dans la capitale nord-coréenne du président sud-coréen Moon Jae-in serait la première d'un chef d'État du Sud en plus d'une décennie. En Afghanistan, les talibans ont continué de résister dimanche aux forces gouvernementales pour la troisième journée consécutive à Ghazni dans l'Est, malgré la confiance affichée par les autorités sur leur capacité à reprendre le contrôle. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre oreille attentive. Eric Manelakis, au revoir.
Sur VOA Afrique.